Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Mouamadou Oumfa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition matinale du mardi 17 septembre 2024. Voici le sommaire. En RDC, au moins 4 personnes sont mortes et une quarantaine portées disparues dans le naufrage lundi d'une embarcation surchargée. Au Mali, plusieurs anciens ministres seront face à la justice à partir d'aujourd'hui. Ils doivent répondre des accusations de corruption liées à l'achat en 2014 d'un avion présidentiel et des équipements militaires. Au Togo, à l'occasion de la rentrée scolaire, les autorités ont décidé d'interdire l'usage des téléphones par les élèves dans les écoles, une mesure qui ne fait pas l'unanimité.
L'interdiction, c'est pour améliorer la qualité de l'apprentissage au niveau des apprenants. Parce que lorsque vous avez votre téléphone portable, même dans le sac, vous n'êtes plus concentré.
Le fait d'empêcher les enfants d'utiliser le portable à l'école ne fait pas l'affaire.
À suivre le reportage de notre correspondant à Lomé dans la partie magazine. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec Jean-Roger Billon et les sports présentés par Yacouba Ouédraogo. Mais pour commencer, voici le journal. Au Mali, l'affaire de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires, un scandale qui remonte à 2014, sera enfin jugé ce mardi. Plusieurs anciens ministres, dont Boiré Fili Sissoko, Mahamadou Camara, sous la présidence de Ibrahim Boubacar Keïta, seront face à la justice. Ce procès est réclamé depuis des années par des organisations anticorruption. Ibrahim Koulibaly, membre de la coalition des organisations de lutte contre la corruption au Mali, s'en félicite. Au micro de Georges Attino.
Pour moi, c'est une bonne chose que la justice soit dite, que les coupables soient vraiment condamnés, que les innocents soient relaxés, que l'État entre en possession de ses dûs. Ça nous permet de ne pas garder les gens en prison sans jugement. Pour moi, ce genre de dénouement, la justice malienne doit essayer de diligenter au plus vite sur toutes les affaires qui se trouvent à son niveau par rapport à la délinquance financière, par rapport à la corruption. Donc, il est vraiment temps qu'on essaie de prendre toutes les dispositions pour que les jugements se passent dans les meilleurs délais et dans le strict respect des procédures. Nous espérons seulement que toutes les parties seront vraiment en possession de leurs droits. Nous espérons que cette volonté, la volonté politique, ne va pas se limiter à ce seul niveau.
En Sierra Leone, au moins 8 personnes ont été tuées, dont 3 enfants, dans l'effondrement lundi d'un immeuble résidentiel dans la capitale Freetown. Le bâtiment qui abritait des logements et des commerces s'est effondré entre 11h et midi, temps universel, a annoncé l'Agence nationale de gestion des catastrophes dans un communiqué. Jusqu'à présent, 6 personnes ont été secourues et 8 ont été confirmées mortes, dont 3 hommes, 2 femmes, 2 petites filles de moins de 5 ans et un garçon de moins de 5 ans, indique l'agence. Une opération de sauvetage a été lancée pour retrouver des survivants. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident, d'après la police. En RDC, au moins 4 personnes sont mortes et une quarantaine portées disparues dans le naufrage lundi d'une embarcation surchargée appelée Baleinière dans le sud-ouest du pays. Les précisions avec Dili Diko.
4 corps ont été repêchés. À ce stade, 79 personnes sont rescapées et une quarantaine sont portées disparues, a déclaré Rémi Saki, vice-gouverneur de la province du Kwango. Les recherches se sont poursuivies dans la soirée dans des conditions difficiles. Il faudra attendre 1 ou 2 jours pour réussir à localiser la baleinière, essayer de dégager la barge et voir si des corps sont encore coincés, a poursuivi M. Saki. Le naufrage du bateau transportant quelques 150 passagers, selon des témoignages recueillis par les autorités, a eu lieu dans la matinée sur la rivière Kwango, un sous-affluent du fleuve Congo. La baleinière a heurté un pont dans des circonstances qui n'ont pas encore été déterminées, a expliqué le bourgmestre du village de Pont-Kwango, Jean-Baptiste Nkololo. Les naufrages sont fréquents dans ce vaste pays arrosé par l'immense fleuve Congo. Au moins 25 personnes ont péri fin juillet dans le naufrage d'une baleinière sur le fleuve dans la province de Maniema. En 2019, un autre chavirement sur le lac Kivu a fait une centaine de morts. Souvent, l'absence de liste de passagers complique encore plus les opérations de recherche et les bilans de ces naufrages à répétition.
En Afrique du Sud, un ressortissant chinois et deux Zimbabwéens ont été arrêtés dimanche, accusés d'avoir illégalement pêché une grande quantité d'ormeaux, un mollusque marin protégé, mais prisé en Asie où il se vend très cher. D'après la police sud-africaine, la province du Cap-Occidental a confisqué plus de 11 000 ormeaux humides et 15 000 ormeaux secs ainsi que du matériel pour une valeur totale de $550 000. Les quantités d'ormeaux pêchés illégalement ont presque doublé dans le monde au cours de la dernière décennie, selon Trafic, le réseau international de surveillance du commerce et des espèces sauvages.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le chef du Hamas, Yahya Sinwar, a affirmé lundi que son mouvement est préparé à affronter durablement les forces israéliennes dans la bande de Gaza. Le mouvement islamiste palestinien dit compter sur le soutien de ses alliés appuyés par l'Iran. Jean-Roger Billon.
Nous nous sommes préparés pour mener une longue guerre d'usure, a déclaré Yahya Sinwar. Il a ajouté que les efforts conjoints avec les groupes de la résistance au Liban, en Irak et au Yémen allaient briser la volonté d'Israël. Dans un message de félicitations aux rebelles houthis du Yémen qui ont mené dimanche une attaque au missile sur le centre d'Israël. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a affirmé que la possibilité d'une solution diplomatique s'éloignait pour faire cesser les échanges de tirs avec le Hezbollah libanais, soutenu par l'Iran et allié du Hamas à la frontière nord d'Israël avec le Liban. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a de son côté déclaré lundi à l'émissaire américain Amos Hochstein, en visite en Israël, qu'un changement radical est nécessaire afin de permettre le retour de dizaines de milliers d'Israéliens déplacés de la zone frontalière. Près d'un an après le début de la guerre déclenchée par l'attaque du Hamas contre Israël, le 7 octobre, les opérations de représailles israéliennes ne connaissent pas de répit dans la bande de Gaza.
Le constructeur aéronautique américain Boeing annonce la réduction de ses dépenses et envisage de mettre une partie de son personnel en chômage technique dans les prochaines semaines. La compagnie est en proie depuis vendredi à une grève qui paralyse notamment la production du 737 Max, son best-seller Alexandrine Holognon.
Les négociations entre Boeing et l'antenne locale du syndicat des machinistes et des ouvriers de l'aérospatiale doivent reprendre aujourd'hui sous l'égide d'une médiation fédérale. Plus de 33 000 adhérents ont rejeté jeudi le projet de convention collective et approuvé un débrayage. Hier, Boeing a annoncé avoir gelé tous les recrutements et les hausses salariales liées à des promotions, suspendu tous les voyages non essentiels, éliminé les voyages en première classe et en classe affaires, y compris pour les membres de sa direction. Il a aussi mis sur pause toutes les dépenses caritatives, publicitaires et de marketing, et le groupe se prépare à réduire de manière importante les dépenses d'approvisionnement et en particulier à ne plus passer de commandes liées au programme du 737, du 777 et du 767. Des mesures comme pour calmer les grévistes, car le dernier débrayage chez Boeing en 2008 avait duré 57 jours et avait occasionné de grosses pertes à l'avionneur.
Le groupe américain Meta, qui possède Facebook, Instagram et WhatsApp, a annoncé lundi interdire au principal groupe de médias d'État russe d'accéder à ses plateformes dans le monde entier pour éviter toute activité d'ingérence étrangère. Cette interdiction intervient après que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a dénoncé vendredi les activités de déstabilisation du groupe russe Rossiya Segodnia, auquel appartient RT, devenu selon lui une véritable branche du renseignement russe dans le monde. Ces médias soutenus par le Kremlin ne jouent pas seulement un rôle d'influence clandestine pour saper la démocratie aux États-Unis, mais aussi pour s'immiscer dans les affaires souveraines des pays du monde entier, a déclaré M. Blinken, citant des campagnes de déstabilisation en Moldavie, Argentine, France, Allemagne ou encore en Afrique. Le gouvernement britannique a annoncé ce mardi qu'il allait consacrer près de 89 millions d'euros initialement destinés au financement de l'accord migratoire conclu avec le Rwanda, finalement abandonné, à la lutte contre les gangs de passeurs. Le premier ministre travailliste Keir Starmer, arrivé au pouvoir en juillet, a abandonné ce projet controversé défendu par les précédents gouvernements conservateurs qui visaient à expulser vers le Rwanda les demandeurs d'asile arrivés de façon irrégulière au Royaume-Uni. États-Unis. Le financement annoncé servira à l'achat de caméras de surveillance et de matériel technologique afin de faciliter la collecte de preuves pour pouvoir poursuivre les passeurs, a annoncé la ministre de l'Intérieur, Yvette Cooper. Il sera aussi consacré au recrutement de gardes frontières et de 100 enquêteurs spécialisés au sein de l'Agence nationale de lutte contre la criminalité. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Jean-Roger Bion.
Au Gabon, un plan d'appui budgétaire de 100 milliards de francs CFA vient d'être approuvé pour la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Ce financement va régler plusieurs problèmes de fonctionnement interne qui plombent ses performances. L'argent sera mobilisé à travers des prêts bancaires. La première femme et première africaine à la tête de l'Organisation mondiale du commerce, la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, a décidé de briguer un second mandat, a annoncé lundi l'OMC. Son mandat actuel à la tête de l'OMC se termine à la fin d'août 2025. Pour l'instant, aucun autre candidat ne s'est déclaré. L'Afrique du Sud simplifie les démarches pour les touristes chinois. L'idée est d'attirer un plus grand nombre de touristes chinois en 2023. Ils étaient seulement 93 000 à avoir visité la nation arc-en-ciel sur 100 millions de voyageurs dans le monde. Le tourisme joue un rôle crucial dans l'économie sud-africaine.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Yacouba Ouédraogo. Salut Yacouba.
Bonjour Mohamedou, bonjour à tous.
Le 8e championnat d'Afrique des Nations se tiendra en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda.
Oui, l'annonce officielle a été faite hier par le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe. Le CHAN aura lieu du 1er au 28 février prochain. C'est la première fois que l'Afrique de l'Est accueille une compétition continentale de football pour les équipes nationales et elle servira de précurseur aux trois nations, la Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda, qui accueilleront la Coupe d'Afrique des Nations en 2027. Les matchs de qualification pour le tournoi à 19 équipes débuteront le 25 octobre et se termineront en décembre prochain. Le championnat d'Afrique des Nations, qui a lieu tous les deux ans, est réservé aux joueurs locaux. Le Sénégal a remporté la dernière édition du tournoi en 2023 en battant le pays hôte, l'Algérie, 5 tirs réussis contre 4 au pénalty. En finale, le Maroc et la République démocratique du Congo ont chacun remporté deux fois le CHAN depuis sa création en 2009.
Début ce mardi des matchs de la phase des poules de la Ligue européenne des champions.
Pour cette première journée à suivre, entre autres rencontres, l'AC Milan qui accueille Liverpool de Mohamed Salah, la Juventus Turin fait face au PSV Eindhoven, Young Boys Berne accueille Aston Villa, le Real Madrid fait face au Stuttgart, le Bayern Munich fera face à Dynamo Zagreb et le Sporting Portugal accueille Lille. Dans ce nouveau format de la Ligue des Champions à 36, les clubs de l'élite européenne vont batailler pour accrocher l'une des 8 premières places directement qualificatives ou à défaut un billet pour les barrages en se plaçant de la 9e à la 24e place. Le tableau des tours à élimination directe commence à partir des 8e de finale.
Ismaël Benasser attend pour discuter ce nouveau format de la Ligue des Champions.
L'international algérien de l'AC Milan sera indisponible pendant 4 mois en raison d'une blessure au mollet droit. Selon le club vice-champion d'Italie 2024, actuellement 9e de Serie A, Ismaël Benasser s'est blessé au muscle de la jambe droite à l'entraînement alors qu'il était en sélection. Il est parti en 2019 en Italie où il a d'abord joué à Empoli avant de rejoindre en 2019 l'AC Milan avec qui il a remporté le titre de champion d'Italie en 2022.
Et puis en tennis, Hans Jaber met un terme à sa saison.
Cette année a été extrêmement difficile pour moi. En raison de ma blessure persistante à l'épaule, mon équipe médicale et moi-même avons pris la décision difficile de quitter le circuit pour le reste de la saison, a indiqué sur X la Tunisienne Hans Jaber, a ajouté qu'elle reviendrait sur les cours pour l'Open d'Australie en janvier 2025. Cette année, la joueuse dont le meilleur classement WTA a été une deuxième place a fait l'impasse sur les Jeux Olympiques de Paris pour préserver sa condition physique, mais avait dû se retirer du tournoi de Washington début août. Elle avait ensuite perdu au premier tour du tournoi de Toronto face à la japonaise Naomi Osaka avant de renoncer au tournoi de Cincinnati.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouamadou Oumfa, toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. Ici aux États-Unis, à l'approche de l'élection présidentielle, la campagne se retrouve secouée par une nouvelle tentative d'assassinat ayant visé Donald Trump. Parallèlement, les sondages révèlent un soutien significatif des femmes à Kamala Harris, la candidate démocrate. Le vote des électeurs indécis prend une importance accrue, tout comme les stratégies pour emporter les États pivots. Sur quelques enjeux de la campagne, Nanit Talani a interrogé Nyaka Laigok, professeur à Lincoln University en Pennsylvanie, l'un des États décisifs dans le scrutin de novembre.
Je ne crois pas que cette dernière tentative d'assassinat, si on peut s'exprimer ainsi, changerait quelque chose quoi, par rapport à l'élection. Ceux qui n'aiment pas Donald Trump vont continuer à ne pas l'aimer. Ceux qui l'aiment vont continuer à l'aimer, à le soutenir. Beaucoup de gens se sont mobilisés par rapport au Parti démocrate. Et je ne crois pas que subitement ces gens aient de la sympathie parce qu'on tenterait de tuer Donald Trump.
Est-ce que vous pensez que les femmes sont plus favorables à Kamala Harris et les hommes à Donald Trump?
Oui, c'est ce qu'on constate dans les sondages qui sortent. Même s'il y a eu un petit changement après le dernier débat, oui, les femmes sont davantage mobilisées pour Kamala Harris, ce qui est tout à fait logique. Et puis, tous ceux qui croient aux libertés, au droit à l'avortement, et toutes ces personnes se mobilisent davantage pour Kamala Harris, et c'est de bonnes guerres.
Quels sont les segments des électeurs indécis qui sont les plus susceptibles de changer d'avis?
En fait, dans le monde rural, beaucoup de gens soutiennent Donald Trump. Et les indépendants, beaucoup d'entre eux ont estimé que Kamala Harris avait gagné le dernier débat. Mais je pense que quand on regarde ce qu'on appelle les demographics aux États-Unis, les hommes auront tendance à voter pour Donald Trump, surtout les Blancs. Et puis Kamala Harris, il y aura certainement beaucoup plus de femmes, un peu plus de jeunes. On dit qu'il y a une catégorie d'indépendants qui pourrait changer, ça on ne peut le dire. Et cela dépendra de comment la campagne va se dérouler d'ici les élections.
Comment les candidats, donc Donald Trump et Kamala Harris, pourraient-ils ajuster leur stratégie pour maximiser leurs chances de succès dans les États clés?
Pour moi, il y a une chose que je peux dire. La personne qui va mobiliser le maximum d'électeurs en sa faveur, c'est cette personne-là qui va gagner les élections. En d'autres termes, il y a une expression en français qui est sortir le vôtre. C'est lui qui sera capable, ou c'est lui, celle qui sera capable de sortir le vôtre. C'est cette personne-là qui va gagner les élections. Donc, Trump semble ne pas changer. Il s'attaque à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Et là, maintenant, il s'attaque à Taylor Swift, qui a décidé de soutenir Kamala Harris, en disant sur les réseaux sociaux qu'il hait la femme. Je ne sais pas en quoi cela pourrait lui être favorable, mais c'est ce que Trump est. Et donc, je ne crois pas qu'il change d'attitude seulement s'il peut galvaniser ses supporters et ses électeurs pour qu'ils soient plus nombreux que Kamala Harris. C'est seulement dans ces conditions qu'il peut gagner les élections et cela est aussi valable pour Kamala Harris.
Nyaka Laigok, maître de conférence en études panafricaines et en histoire à Lincoln University en Pennsylvanie. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont célébré hier lundi le premier anniversaire de la création de l'Alliance des États du Sahel. En juillet, les trois pays ont consolidé leurs liens par la mise en place d'une confédération des États du Sahel, présidée actuellement par le Mali et qui regroupe quelque 72 millions de personnes. Pour analyser les enjeux et les perspectives de cette alliance, Jean-Roger Bion a joint à Bamako Ali Tunkara, directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel.
La mutualisation des efforts, le soutien qui est accordé ça et là de part et d'autre, sont des éléments qui laissent entendre que l'effectivité de l'AES est une réalité. Et d'ailleurs, pour rappel, depuis mars 2024, la force conjointe de l'Alliance est aussi opérationnelle. Maintenant, en ce qui concerne les perspectives sur les autres domaines de développement, tels que les questions de conflits locaux, les questions des infrastructures sanitaires éducatives et d'autres aspects vitaux de la vie, sont des éléments qui sont pris également suivis à entendre les différents chefs d'État. Dans les différentes prises de parole, on se rend compte que il y a une attention particulière qui est accordée à la nécessité d'aller vers l'exploitation souveraine des ressources naturelles.
Alors, les observateurs dénoncent l'absence d'opposition dans les trois pays qui composent l'AES. Est-ce que ce facteur n'est-il pas préjudiciable à un espace qui veut faire partie du concert des nations?
Les dirigeants vous diront qu'ils n'ont rompu avec aucun pays. Ils ont juste tenté de mettre en place des fondamentaux à partir desquels tous les pays qui désirent collaborer avec eux, s'ils venaient à respecter ces principes, ils ne voyaient pas d'inconvénient de collaborer avec ces pays. Mais au-delà, pensez qu'ils sont isolés, ils vous diront qu'ils sont avec la Russie, ils sont avec la Chine, ils sont avec la Turquie, ils sont avec la péninsule arabique, j'en passe. Donc pour dire que le partenariat, il n'a pas été interrompu, mais plutôt il a été redéfini. Nous assistons davantage à un nouveau positionnement de la part de ces États vis-à-vis de l'étranger.
Alors, un an après la création de l'AES, quelles sont les perspectives dans la lutte anti-djihadiste?
Alors, concrètement, quand on parle de Takogouma, ces quartiers généraux ne sont pas entièrement détruits. Et ils ont été sérieusement affaiblis à la suite des actions coordonnées que mènent ces trois États. L'Alliance des États du Sahel, effectivement, s'inscrivait dans cette nécessité de mutualisation des efforts. Mais là aussi, il faut aussi quand même, quand on regarde le positionnement vis-à-vis des pays comme la Mauritanie, l'Algérie, et même à certains égards le Bénin et la Côte d'Ivoire, naturellement, ce sont des insuffisances qui pourraient entamer l'efficacité des actions aujourd'hui qui sont engagées par ces trois États dans le cadre de la lutte contre la nébuleuse terroriste. D'où la nécessité d'aller vers des actions davantage régionales que des actions qui seraient entre les mains des trois États, certes qui sont les plus touchés par l'insécurité du terrorisme.
C'était Ali Tunkara, directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel.
Alexandrine Rolonio avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, les États de l'AES annoncent le lancement de nouveaux passeports biométriques avec pour objectif d'harmoniser les titres de voyage dans leur espace commun à la suite de leur retrait de la CEDEAO. Cette annonce a eu lieu la veille du premier anniversaire de la création de l'Alliance des États du Sahel, le 16 septembre 2023. Quel bilan pour l'Alliance un an après sa création? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel dans Washington Forum sur VOA Afrique et voaafrique.com pour une analyse.
Au Togo, c'est la rentrée scolaire pour les élèves des écoles primaires, secondaires et techniques. Pour cette nouvelle année, les autorités ont décidé d'interdire l'utilisation du téléphone portable dans les établissements scolaires. Elles mettent en cause l'usage inapproprié de ces téléphones par les élèves et la prolifération des contenus indécents et attentatoires sur les réseaux sociaux. De Lomé, notre correspondant Kossi Wusu.
Les résultats obtenus au cours de l'année scolaire 2023-2024 n'ont pas été du goût des autorités en charge de l'éducation au Togo, avec un recul de près de 50% de taux de réussite aux divers examens de fin d'année. L'utilisation à outrance des téléphones portables par les élèves a été indexée comme l'une des causes de ces résultats catastrophiques. Kai Afide Alonion, du ministère de l'Enseignement technique, nous donne les raisons de cette interdiction.
C'est pour améliorer la qualité de l'apprentissage au niveau des apprenants. Parce que lorsque vous avez votre téléphone portable, même dans le sac, vous n'êtes plus concentré. Et ils peuvent l'utiliser également pour prendre des photos, pour prendre des choses malsaines. Voilà l'une des raisons. Et l'autre, vous voyez que lorsque les jeunes sont avec leur téléphone portable, ils vivent dans un monde virtuel. Donc, c'est pour la santé mentale également de cet apprenant.
Aussi, est-il interdit à tout élève de créer, publier, diffuser ou partager sur les réseaux sociaux des contenus indécents, attentatoires à l'honneur et à la dignité ou susceptibles de nuire à l'image de son établissement scolaire. Cette décision prise par les autorités emporte l'adhésion des parents d'élèves.
Quand nous avons eu écho de cette décision, nous parents, nous avons dit merci. Merci parce que nos enfants s'habituent trop au portable. Ils oublient même le cahier.
Le portable, nous savons que c'est vraiment une nécessité, mais pas à l'école. Arrivé à l'école, nos enfants n'arrivent pas à suivre les cours comme cela se doit.
Sylvestre, parent de deux jeunes garçons au collège, demande une rigueur dans l'application de cette décision.
Puis en 2020, il y a des jeunes filles qui dansaient en tenue scolaire dans les écoles avec des vidéos obscènes, certains qui s'accoupaient et tout. L'année dernière, il y a un élève qui, pendant que le professeur faisait le cours, il se filmait en disant que même si le professeur est là, nous on s'en fout. Vous avez vu que c'était véritablement le comble. Maintenant, il faut aujourd'hui une fermeté pour que la mesure soit appliquée.
Jérôme, un peu circonspect sur la décision d'interdiction, préfère mettre l'accent sur d'autres réformes initiées par le ministère des Enseignements pour occuper les élèves et les éloigner, un tant soit peu, du téléphone portable.
Il a demandé aux écoles de faire des projets qu'il a appelé projet école, qui va permettre à ces établissements d'enseigner de petits trucs aux élèves, apprendre à monter les panneaux solaires, les filtres à eau. C'est pour ça que je souhaiterais vivement qu'il y ait un suivi par rapport à ça. Mais le fait d'empêcher les enfants d'utiliser le portable à l'école ne fait pas l'affaire.
En attendant, tout contrevenant à la décision de l'interdiction d'utilisation du téléphone portable dans l'enceinte des établissements scolaires, se verra tout simplement confisquer l'appareil sans possibilité de restitution. Kossi Woussou, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Les récentes inondations dans le nord-est du Nigeria ont provoqué le déplacement d'au moins 50 000 personnes dans la région du Sahel et du lac Tchad. De fortes inondations ont exacerbé les crises humanitaires au Cameroun, au Mali et au Niger. Le Conseil norvégien pour les réfugiés a lancé un appel à la communauté internationale pour qu'elle augmente son aide aux plus vulnérables. Yacouba Ouédraogo a joint à Dakar Christelle Huré, responsable plaidoyer du Conseil norvégien pour les réfugiés.
Cette année, il y a eu 2,3 millions de personnes impactées par les inondations en Afrique de l'Ouest et du Centre. Mais récemment, il y a eu vraiment une accélération. Bien que dans l'Est du Nigeria, on a vu 50 000 personnes qui ont été déplacées en un seul week-end, plus de 200 000 personnes qui ont été touchées au Cameroun, et il y en a encore énormément d'autres au Mali et au Niger. On voit que ces inondations, elles vont toucher les populations les plus vulnérables parce que c'est souvent dans des zones qui sont déjà fragilisées par les conflits. En termes d'impact immédiat, il y a eu pas mal de morts, énormément de personnes qui ont été déplacées. Après, il y a aussi toutes les terres agricoles qui sont bien entendu essentielles à la sécurité alimentaire qui ont été détruites. Et on a aussi une grosse inquiétude par rapport aux maladies qui pourraient arriver comme le choléra du fait des problématiques d'assainissement et d'hygiène dans ces zones.
Justement, parlant de la région du Sahel et celle du lac Tchad, c'est déjà des régions en proie à l'insécurité. Est-ce que cela aussi augmente, j'allais dire, les souffrances de ces populations-là?
Oui, c'est en fait parce que c'est souvent déjà les populations les plus vulnérables qui ont été impactées, donc des populations qui déjà, pour certaines, ont un accès difficile à la terre à cause du conflit, ou ont déjà été déplacées, ou ont des moyens d'existence extrêmement limités. À Maïdougouri, au niveau de l'état du Borno au Nigeria, il y a eu énormément d'inondations, et on sait qu'il y a beaucoup de personnes déplacées qui vivent encore à Maïdougouri. En tout, dans les 7 pays qui ont été les plus impactés par les inondations, il y a plus de 290 000 personnes qui ont été déplacées, et parmi elles, il y a beaucoup de personnes qui étaient déjà déplacées à cause des conflits.
Quels sont les besoins immédiats de ces populations en détresse dans la région du Sahel et celle du lac Tchad?
Alors, notre priorité immédiate, c'est vraiment de s'assurer que les populations reçoivent un soutien essentiel tel que un abri, de la nourriture, de l'eau, bien entendu, et puis des produits d'hygiène. Tout ça se fait, bien entendu, de manière coordonnée avec les gouvernements, qui ont fait preuve d'une grande réactivité et d'une grande solidarité dans la réponse immédiate aux inondations.
Vous dites lancer un appel urgent à la communauté internationale pour qu'elle augmente son aide aux populations vulnérables de ces régions-là. Est-ce que vous sentez que ces populations ne bénéficient pas d'assez de soutien de la communauté internationale?
Alors qu'on arrive vraiment proche à la fin de l'année sur l'ensemble du besoin financier qu'on a, seuls 25% de ces besoins financiers ont été couverts. C'est beaucoup moins que dans d'autres régions. Et cette année, si on regarde les 11 crises les plus mobilisées dans le monde, elles sont toutes en Afrique de l'Ouest et du Centre.
C'est la fin de cette édition. Au micro, Mouhamadou Oumfa. Ainsi va Le Monde aujourd'hui. L'info, c'est 24h sur 24 sur notre site web voafrique.com. À très bientôt.